Seigneur, tu es un grand roi, Seigneur, un grand Seigneur, et tu es présent ce soir au milieu de nous. Nous ressentons ta présence et nous voulons, comme nous l'avons chanté, écouter ce que tu as à nous dire. Nous nous prosternons devant ta face, nous tes créatures rachetées par grâce. Quel honneur tu nous fais d'être venu nous sauver et nous délivrer de notre péché. Seigneur, tu es le vivant au siècle des siècles, et nous savons, Seigneur, que le jour de ton retour approche. Combien, Seigneur, nous désirons être prêts quand tu viendras. Trouve-nous revêtus d'une robe blanche, comme tu le désires, comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, nous voici. Nous voulons écouter ta voix. Et le Seigneur a tout d'abord une parole prophétique à dire. À nous, ses enfants, de la fin des temps. Il m'a mis cette parole des Écritures à cœur. Voici ce que le Seigneur nous dit, peuple de Dieu de la fin des temps. Vous, mes enfants, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et les paroles que le Seigneur m'a encore demandé de lire sont dans la première épître aux Thessaloniciens pour nous ce soir qui sommes présents. Ce que Dieu veut, peuple de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le Seigneur nous exhorte beaucoup ce soir à rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et c'est comme s'il voulait nous dire que nous devons veiller particulièrement à la blancheur de notre robe, afin que notre robe ne soit pas tachée, mais que nous soyons revêtus de la justice immaculée de Jésus et que nous veillons aux taches qui pourraient se présenter sur notre robe. En ces temps de la fin, dit le Seigneur, je vous exhorte, peuple de Dieu, à faire tous vos efforts afin de ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, étant ignorants de la vie qui se trouve en moi, ayant l'intelligence obscurcie et ayant endurci leur cœur à mon égard. Mais vous, mon peuple, dit le Seigneur, j'attends de vous à ce que vous vous distinguiez davantage du monde est de l'esprit du monde, et à ce que vous soyez différents de ceux du monde. Je vous ai appelé à être la lumière du monde. Et si vous voulez être la lumière du monde, vous devez chercher à être renouvelé dans votre esprit et dans votre intelligence afin de marcher en nouveauté de vie. Revêtez-vous donc de ma justice, de ma droiture et de ma sainteté, dit le Seigneur. N'oublions pas que notre Dieu est un Dieu trois fois saint et que rien d'impur ni de souillé n'entrera jamais dans son ciel de gloire. Marchez comme des enfants de lumière. Renoncez aux mensonges, à la colère, aux mauvaises paroles, afin de ne pas attrister mon Saint-Esprit. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Éloignez de vos cœurs toute amertume, de votre bouche toute parole grossière, tout propos léger et insensé. Marchez comme des enfants de lumière et cherchez à vous distinguer en menant une vie qui m'est agréable et qui me glorifie. Soyez mes enfants, au contraire, rempli de l'Esprit. Voici quelques paroles d'exhortation que le Seigneur nous adresse. Pour commencer cette réunion, Seigneur, combien je vous propose de vous incliner dans la prière, parce que nous sommes devant le Seigneur. Et si le Seigneur nous parle, nous ne prenons pas ses paroles en vain et à la légère. Que chacun s'examine lui-même. Se trouvant devant ce Dieu trois fois saint. Et souvent nous chantons aussi, Seigneur, viens sonder mon cœur, mes reins, ma personne, viens me sonder, Seigneur, montre-moi ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir, afin que toute tâche soit ôtée de notre robe blanc, qui doit être blanche. Et s'il y a une impureté sur ta couture, ta robe, le Seigneur t'exhorte. Viens à mes pieds. Viens réclamer la purification de ta robe par mon sang précieux, dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu de vérité. Et tu es un Dieu de sainteté. Soyons en conscience. Souvent, nous demandons la bénédiction du Seigneur. Bien sûr, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et nous nous contentons de cela, nous nous contentons simplement de cela. Mais le Seigneur a peut-être aussi quelque chose à nous dire à nous. Peut-être qu'il attend aussi quelque chose de toi, mon frère, ou de toi, ma sœur, ou de moi. Je veux le savoir avant de le rencontrer sur les nuées du ciel. Moi, je veux être prête quand il reviendra. Je veux marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Rappelons-nous cette parole sérieuse et solennelle. Ce soir, le Seigneur nous s'adresse à nous d'une façon très solennelle. Mais c'est encore par amour. C'est encore parce qu'il nous aime. C'est encore parce qu'il veut nous toucher. C'est encore parce qu'il veut nous transformer. Alors, écoutons. Et tenons compte de ce qu'il nous dit et de ce qu'il nous dira aussi au travers du message qui sera donné. Alléluia, Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous le restons. Et je voudrais partager avec vous un petit peu, quelques gouttes de la bénédiction du Seigneur que nous avons reçue ces jours derniers, ces semaines dernières. Hier, pas plus tard qu'hier, à notre séminaire, le Seigneur s'est manifesté. Il est venu au milieu de nous. Et nous pouvions ressentir sa présence d'une façon tellement presque palpable. Et des paroles de connaissance ont été données de sa part pour quelqu'un qui avait une douleur dans le genou droit. Et le Seigneur a libéré non seulement cette personne qui avait un genou droit bloqué, qui ne pouvait pas le plier, elle a pu le plier à la fin, après cette parole, mais la même parole a touché un monsieur, un homme, qui lui ne pouvait pas monter et descendre correctement les escaliers, les deux genoux bloqués. Et le Seigneur a débloqué les deux genoux aussi de cet homme-là. Trois genoux débloqués par une seule parole du Seigneur. Il dit un mot. Et la guérison s'accomplit. Un mot. Ces paroles sont puissantes. Et nous étions à Montmagny il y a une semaine, où nous avons aussi fait un séminaire. Et là-bas, quelque chose de merveilleux nous a été rapporté. Je vous donne juste quelques témoignages, mais c'est tellement beau, ça nous a tellement encouragés. Ça s'est passé l'année dernière. À notre séminaire de Montmagny, l'année dernière, 2004. Et cette année encore, une grand-maman de Rimouski est revenue à notre séminaire pour dire ce qui s'était passé l'année dernière. Et l'année dernière, le Seigneur a touché une jeune fille qui souffrait de surdité. Elle était presque entièrement sourde et dans une école spécialisée, une jeune fille de 15 ans en 2004, donc 16 ans cette année. Et la grand-maman m'a raconté comment cela s'est passé. À notre séminaire 2004, à Montmagny, la grand-maman, après la réunion, est venue me demander de prier pour sa petite fille de 15 ans qui est sourde et qui n'était pas là du tout à la réunion. Elle était à Rimouski. Et j'ai simplement prié avec cette grand-maman. Nous avons prié ensemble, toutes les deux. Et la grand-maman est repartie à la maison. Deux jours après, sa petite fille vient voir sa grand-maman. Elle veut allumer le bouton de la télévision. Elle est toute surprise parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle entend le clic du bouton de la télévision. Alléluia, Seigneur. Et après, elle met le son très fort parce qu'elle a l'habitude de mettre le son très fort pour entendre un petit peu quelque chose, très très fort. Qu'est-ce qu'elle voit? C'est beaucoup trop fort. Vite, elle rebaisse le son. Elle entend parfaitement bien. Elle a été guérie de sa surdité. Amen. Dans ses deux oreilles. Alléluia! L'année dernière, à Montmagny, par une seule prière, une seule prière. Mais le Seigneur est un grand Dieu. Magnifique. Et puis, une autre chose qui s'est passée aussi, je l'ai raconté, parce qu'on est tellement encore sous le coup, si on peut dire, de ce qu'on vient d'expérimenter. À Montmagny aussi, au séminaire, une parole de connaissance m'a été donnée pour quelqu'un qui a une tache au cerveau. Comme une sorte de tache de beauté qui provoque des sortes de crises, genre épilepsie. Et j'ai dit, le Seigneur, touche cela et fais disparaître cette tache. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait là une dame qui est venue à la fin de la réunion me dire en pleurant, c'est moi là, C'est moi. Ça fait 10 ans que je souffre et elle faisait des crises tous les jours. Depuis 10 ans, il n'y avait rien à faire médicalement, c'était effectivement ça. Elle crachait tous les quarts d'heure. Elle vomissait tellement la douleur était énorme dans sa tête. Et cette dame a donc été touchée par le Seigneur. Sa sœur a téléphoné ici, on était déjà ici, ces jours passés là, et a dit que sa sœur était méconnaissable. Elle a en même temps reçu la foi parce que le mal a voulu revenir, écoutez bien ça, le mal a voulu revenir et elle a eu la foi de dire « Non, j'ai été guérie, je n'en veux plus. » Et le mal est reparti aussi sec. Alléluia! Parce que quand le Seigneur touche et se glorifie de cette façon, alors nous n'avons pas de mots pour lui dire merci. Nous n'avons pas de mots pour nous émerveiller devant ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Et je terminerai avant de donner la place à Samuel par cet autre témoignage d'une dame qui est venue en France cette fois dans notre église, là où nous sommes, qui souffrait d'une maladie incurable en France pour le moment. Ils ont trouvé un médicament, paraît-il, aux États-Unis. Ce médicament se vend ici au Canada aussi, mais en France, il n'est pas encore autorisé dans la vente, pas connu. Ça vient d'être découvert. C'est une de ces nouvelles maladies. Et cette dame, elle souffrait de cette maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Vous la connaissez ici peut-être. C'est une maladie incurable qui vous détruit petit à petit. Et cette dame, elle souffrait dans son corps tellement qu'elle était obligée d'arrêter de travailler pour 1 ou 2 jours, se mettre au lit. Elle ne pouvait même rien faire dans sa maison. Des crises de douleur dans tout l'organisme. Et petit à petit, l'organisme s'affaiblit de crise en crise et les crises se rapprochent. Non plus, et c'est un genre de maladie, je ne sais pas le nom de cette maladie, où vous finissez dans une chaise roulante et ça vous détruit, ça vous fait mourir. Alors, cette dame est donc venue à notre réunion, à notre culte à la maison, et puis en sortant, les amis rentraient chez eux à la maison. Sur le pas de la porte, je lui dis, nous allons aller au Canada, peut-être que je peux te ramener le médicament en question, je vais m'informer là-bas si je peux t'aider, parce qu'elle ne savait vraiment plus comment s'en sortir, personne ne pouvait l'aider, personne, les médecins, personne, chez nous, personne. Et je lui ai dit, si tu veux, je m'informerai, puis elle me dit, oh oui, j'aimerais bien ça. Et tout à coup, le Seigneur me dit, « Et pourquoi tu ne pries pas pour elle ?» Et puis, tout simplement, j'ai dit, « Annette, elle s'appelle. » J'ai dit, « Annette, tu veux que je prie pour toi ?» Et puis, elle dit, « Oui, oui. » Et puis, je prie, elle prie, on prie ensemble. Elle s'en va. Vous savez qu'elle a été guérie. Elle a été guérie, cette fois-là, simplement devant le pas de la porte. Le Seigneur ne guérit pas que dans les églises, il guérit dans la rue, il guérit n'importe où. Il est le Seigneur. Il n'y a pas que dans les églises que le Seigneur guérit. Il guérit chez toi à la maison. Il guérit même quand tu n'es pas là. Si tu as la foi pour prier pour un de tes bien-aimés qui est malade, il guérit chez toi. Et là me vient un témoignage, nous étions au Burkina Faso et nous faisions un grand séminaire avec plus de 2000 pasteurs. Et une parole de connaissance m'est donnée disant, il y a un serviteur de Dieu ici qui a laissé son enfant malade, il se fait beaucoup de soucis. Le Seigneur te dit, mon serviteur 48 heures, je guéris ton enfant à la maison. Et ce serviteur de Dieu-là, il avait laissé son enfant. Puis vous savez, en Afrique, on n'a pas beaucoup de traitements, pas beaucoup de choses pour aider. Ils sont pauvres, les gens, très, au Burkina, très pauvres. Et il s'était fait du souci parce qu'il avait laissé son enfant, mais fiévreux, mais une grosse fièvre. Et il avait laissé un peu d'argent pour l'hospitaliser, au cas où il faudrait l'hospitaliser. C'en était là. Alors, il est quand même venu au séminaire par la foi. Le Seigneur a honoré sa foi. Et au séminaire, le Seigneur donne cette parole. Alors, notre ami, le pasteur, il n'avait qu'une hâte, c'est que le séminaire se termine et qu'il rentre chez lui à la maison. Alors, il court chez lui à la maison pour voir. Et qu'est-ce qu'il trouve à la maison? Son enfant qui joue dehors, complètement guéri. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Pour le Seigneur, il n'y a pas... Le mot impossible n'existe pas. Le mot difficile n'existe pas. Il est le Seigneur de toutes choses, le Créateur de l'univers. Comment une petite chose, qu'une petite maladie, une petite infirmité serait difficile pour lui? Lui, notre Créateur. Alléluia. Ne limitons pas ce Dieu grand et redoutable. Et n'oublions pas, il s'intéresse, avant de s'intéresser aux souffrances de votre corps, il s'intéresse aux souffrances de votre âme. Vous savez ça? Il s'intéresse à l'état de votre âme, à la blancheur de votre robe. Alors ce soir, nous voulons être devant lui comme un livre ouvert et dire: Seigneur, je te donne une page blanche. Je la signe en bas et tu fais ce que tu veux. Tu mets dessus ce que tu veux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puissions-nous tous le dire et le vivre dans notre propre vie. Puissions-nous vivre pour la gloire du ressuscité qui revient sur les nuées du ciel. Et bientôt, il va nous prendre avec lui dans un ciel de gloire, où tout est sainteté, où tout est pureté, où tout est beauté, et où il n'y a aucune imperfection. Alors, quand nous voyons dans notre vie, nous constatons dans notre vie des imperfections, demandons: Seigneur, j'aimerais tellement éliminer cette imperfection-là, éliminer celle-ci, éliminer celle-là. Tout ce qui est une tentation, un péché qui vient souiller votre robe, vite, vite, demandez au Seigneur de vous laver, vite, vite, parce que le Seigneur revient sur les nuées du ciel. Que ta robe soit trouvée blanche, immaculée, parfaite. Ce sera tout à son honneur. Ne voulons-nous pas tous ressembler à Jésus? Amen. Alléluia. Ô Seigneur, nous te rendons gloire, honneur, puissance et majesté. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Parle-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Et nous voulons que ton nom soit glorifié dans et par nos vies à chacun. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous aimons tous du même amour. Nous avons tous le même prix à tes yeux. Tu as sacrifié ton propre Fils, ô Dieu, pour venir nous sauver, nous arracher aux ténèbres, à notre destinée en enfer. Seigneur, louange, gloire et puissance à toi. Nous voulons nous reconsacrer à toi, Seigneur. Fais ton œuvre en nous et sois béni, Seigneur, dans nos cœurs et au travers de nos vies. Amen.
Le nom du Seigneur soit béni. Pourrions continuer à donner de merveilleux témoignages de la grâce, de la compassion de notre Seigneur. Et cette compassion est toujours très grande. Parfois, nous avons l'impression que Dieu n'est pas, le Seigneur n'est pas ému de compassion. Mais c'est une illusion de notre part. Lui, il est toujours plein de compassion. Amen. C'est nous qui ne sommes pas toujours dans les dispositions qu'il faudrait. pour qu'il agisse. Lui, il est toujours prêt. C'est nous qui ne sommes pas toujours prêts. Ainsi, quand Dieu nous parle, à travers d'un message, ce soir ou demain, vous devez veiller à ce que cette parole n'entre pas par ici ou sorte par là, mais qu'elle pénètre dans votre cœur. Et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ceci est très important, car le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Si toi tu veilles sur sa parole pour obéir, lui veille sur sa parole pour l'accomplir.
Amen.
Ainsi, on a toujours notre part à faire. Notre part, c'est d'obéir. Et sa part, c'est d'agir. À nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. À nous le vouloir.
Amen.
Et à Dieu le pouvoir. J'aimerais donner brièvement quelques pensées, ne serait pas très long, mais quelques pensées importantes pour chaque chrétien. Chacun d'entre nous, nous désirons tous être utilisés par le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Tous. Nous voulons que le Seigneur nous utilise. Mais comment? Qu'est-ce que le Seigneur demande? Quelles sont les qualités que le Seigneur demande pour qu'il nous utilise? Comment être utilisé par Dieu? Combien de fois j'ai fait cette prière, surtout au début de ma conversion? Combien de fois je me suis demandé, mais est-ce qu'un jour le Seigneur va m'utiliser? Et je désespérais. Je lisais des grandes biographies d'hommes de Dieu. Et moi qui étais un tout jeune converti, quand je lisais ces géants-là, je me voyais comme un petit nain à côté d'eux. Et je me disais, jamais je pourrais faire, je serai comme cela, jamais. Vous ne devez jamais dire jamais.
Amen.
Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et si nous voulons que Dieu nous utilise, ses moyens à lui ne sont pas les moyens humains, mais des moyens divins, des armes divines. Et il ne voit pas du tout les choses comme nous les voyons. Et pour cela, nous allons lire quelques versets dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13. Les trois premiers versets, déjà, simplement, ces trois premiers versets sont extrêmement instructifs. Nous voyons là le cœur de l'Église primitive des premiers chrétiens. Là où la puissance de Dieu était présente. Et comment il se comportait pour que sa grâce et sa puissance se manifestent. Les trois premiers versets, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Servait le Seigneur. Et le texte grec dit pendant qu'ils adoraient le Seigneur. C'est très important. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur. Dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On pourrait dire plus loin, mais quelques pensées importantes. Quelle est donc la première des qualités? Il faut d'abord voir qui étaient ses serviteurs, et tout particulièrement Paul, puisque c'est de lui qu'on va beaucoup parler. Il était là dans cet esprit d'adoration, comme un adorateur avec d'autres serviteurs. Mais une des premières expériences que Paul a faites, et qui est toujours en relation avec ce que je vous dis maintenant, j'allais dire la première qualité, la première chose indispensable, si nous voulons que Dieu nous utilise, c'est premièrement expérimenter une conversion radicale. Est-ce que Paul a passé par une conversion radicale?
Oui.
Oui ou non?
Oui.
Et quelle conversion? Si nous lisons, je lisais dans l'après-midi Acte 9, quelle conversion! Et pourtant, c'était un homme qui s'opposait aux premiers chrétiens, n'est-ce pas vrai? Il respirait la menace et le meurtre. Et il allait à Damas pour lier les chrétiens et les amener à Jérusalem pour être condamnés. Il était dans une situation terrible. Il le faisait sincèrement, mais je ne voudrais pas entrer dans les détails. Et nous savons ce qui s'est passé. Cette lumière qui est venue, qui l'a arrêté, tombé par terre. Qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Il te serait dur de te régimber contre les aiguillons. Que veux-tu que je fasse? À peine converti, déjà, il dit au maître, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Et ensuite, lorsque Barnabas, qui était avec lui, l'a conduit vers les chrétiens. Les chrétiens ne croyaient pas du tout à sa conversion, puisque quelques heures avant ou quelques jours avant, il était en train de persécuter les chrétiens. Ils n'y croyaient pas, ils ne croyaient même pas à sa conversion. Et Barnabas a calmé un peu les esprits. Il leur a dit, attention, doucement, calmez-vous un petit peu là. Ce Paul que vous voyez là, tout de suite après sa conversion, il a commencé à prêcher que Jésus était le Messie et le Fils de Dieu. On le poursuit actuellement pour le tuer, pour le faire mourir. Et il a parlé franchement au nom de Jésus. Personne ne pouvait l'arrêter, tellement sa conversion était radical. Le premier point, la première vérité, si vous voulez, si je veux que Dieu m'utilise, c'est déjà d'expérimenter une conversion radicale, une transformation de vie. La Bible ne dit-elle pas, si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici certaines choses. Ah oui, mais pour certains chrétiens, ils ont une version spéciale. Leur version, c'est certaines choses sont changées, sont devenues nouvelles. Certaines choses. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Et c'est là une grande lacune aujourd'hui. Parce qu'il a passé par une conversion radicale. Après, il a pu le dire dans Acte 26-20, quand il s'explique devant les rois, il leur dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance.
Il pouvait dire aux autres qu'il devait changer parce que lui était un homme changé. Mais écoutez-moi bien, mes amis. Quelle ironie quand un chrétien, par exemple, qui dit aux autres de changer alors que lui, il a changé à moitié. Il dit certaines choses qu'il ne vit pas lui-même. Il dit aux autres de pardonner alors que son cœur est plein d'amertume. Il dit aux autres de ne pas mentir alors que lui, ça lui arrive de mentir. Vous croyez que son témoignage va porter ? Une conversion radicale, c'est un témoignage puissant. La puissance déjà se manifeste dans la vie d'un chrétien qui est transformé.
Amen.
Alléluia. Il n'est reconnu pour avoir été avec qui ? Avec Jésus.
Amen.
Une conversion radicale. Aujourd'hui, les conversions sont bien superficielles. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais vous ne voyez aucun changement dans leur vie ? Pas beaucoup, un tout petit peu. Il ne faut pas être des fanatiques. Il ne faut pas exagérer. Et voilà, on est là, toujours à un niveau superficiel. Ça n'a plus rien à voir avec les conversions de la parole de Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui change. On vient à l'église, mais rien ne change en profondeur. Les autres ne peuvent pas voir en nous qu'on a vraiment changé. Et naturellement, que dans de telles conditions, nos paroles ne portent pas. Mais montrez-moi un chrétien dont la vie est transformée. Il n'a pas besoin d'être un grand prédicateur. Les plus faibles paroles porteront parce qu'il vit ce qu'il dit. Voilà ce que j'étais. Autrefois, j'étais aveugle et maintenant, je vois. C'est par là que ça commence. Beaucoup veulent des grands ministères. Beaucoup veulent voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Mais leur vie propre est chancelante. Leur vie spirituelle, leur conversion est à remettre même en question. Ils vivent encore un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et ils se demandent pourquoi Dieu ne les utilise pas. Une conversion radicale. C'est bien ce que Paul était, vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que j'exagère ?
Non.
Dites-moi, si on voyait Paul, le cœur à moitié transformé, hein, et là qui fait des compromis avec les pharisiens, qui va un peu à gauche, à droite, et puis qui est gentil avec tout le monde, est-ce qu'il serait un exemple ? Est-ce que vous croyez qu'on l'aurait écouté ? Est-ce qu'on l'aurait écouté ?
Non.
On ne l'aurait pas, certainement pas écouté. Ce qui nous rassure avec Paul, c'est cette transformation radicale.
Amen.
Nous ne serons pas tous des Paul, c'est vrai. Mais nous pouvons et nous devons tous avoir des vies transformées. C'est cela une conversion. La conversion, vous savez le mot. Le mot grec, c'est un changement radical. À 180 degrés. C'est un demi-tour. C'est aller dans une direction. Et d'un seul coup, quand on attend l'appel de Dieu, c'est un demi-tour radical. C'est un stop. Et demi-tour, droite, comme à l'armée. Demi-tour, droite. Ouf. Et la direction opposée. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Et c'est ce qui doit se passer avec toi.
Amen.
On quitte le chemin large qui mène à la perdition. Parce qu'on n'en a plus besoin. On n'en veut plus.
C'est vrai.
Et on prend le chemin étroit, resserré. Jésus dit, il y en a peu qui le trouvent. Ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, ça. Mais c'est le chemin resserré qui mène à la vie. As-tu quitté ce chemin large pour prendre le chemin étroit qui mène à la vie? Mais c'est le chemin le plus glorieux. C'est un chemin qui a des difficultés, certainement, mais où le bon berger sera toujours près de vous. Mais c'est le chemin où sillonnent des hommes et des femmes dont leur vie a été radicalement transformée. Êtes-vous passé par là ?
Quel est le témoignage de votre conversion? Acte 26, 20, on l'a vu, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avant la conversion, vous voyez, il prêchait la repentance. C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Plus beaucoup. Même des prédicateurs se moquent de cela. Ils se moquent même des prédicateurs qui prêchent sur la repentance. Il ne faut pas faire peur aux gens. Oh, monsieur, madame, il faut leur mettre souvent de la pommade. Et vous croyez que vous les aidez en mettant de la pommade? Vous ne les aidez pas du tout. Il y a un remède divin.
Amen.
Ce remède divin pour cette personne, c'est la repentance. C'est-à-dire que j'ai péché devant Dieu. Et j'abandonne maintenant mon péché. Et pour toujours, je m'en détourne et je me convertis à Dieu pour vivre une vie nouvelle. Et cela, on le fait radicalement, de tout son cœur. Dites-moi une chose. Quand vous voyez un chrétien qui dit qu'il croit et qui n'est pas changé, quelle est la réponse? Cette personne a une foi sans repentance. Voilà pourquoi elle est dans cet état-là. Beaucoup de personnes croient, mais comme leur vie n'est pas changée, c'est la preuve qu'il n'y a pas de repentance. Mes amis, c'est tout simple ce que je vous dis, mais il est nécessaire de revenir là-dessus. Car de plus en plus de prédicateurs se moquent de ce message et n'osent pas parler du mot repentant et du mot péché aussi. Ça aussi, ils sont plus sages que le Seigneur. Ah bon? J'ai presque envie de les prendre en photo, ceux-là. Ils sont plus sages que le Seigneur. Mes amis, si tu passes par une authentique conversion, ta vie sera transformée et ta vie sera un témoignage. Amen. Et on dira, regarde, comme elle est changée, comme il est changé. Partout tu iras. Les uns se moqueront de toi, peut-être, mais il y en a d'autres qui seront surpris. Comme avec Paul. Mais quelque chose se passe. Ton témoignage sera efficace et puissant. Mais il faut commencer par le commencement. Une conversion radicale. Une vie changée. Et c'est dans cette mesure-là que vous serez heureux, n'est-ce pas vrai? Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui a le cœur partagé ne sera jamais vraiment heureux. Et vous savez, quand quelqu'un n'est pas radicalement converti, vous devez satisfaire cette personne avec d'autres joies, d'autres plaisirs et les plaisirs du monde. On doit l'entretenir. On doit lui faire des concerts, on doit lui faire du théâtre, on doit lui faire beaucoup de choses. On doit l'entretenir, on doit le distraire. Parce qu'il n'a pas en lui ce qu'il faut. Mais quand le cœur est entièrement à Jésus-Christ, vous n'avez plus besoin d'être distrait.
C'est vrai.
La plénitude de joie est en vous.
Amen.
Un bonheur que nul ne peut comprendre. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pierre disait à la Pentecôte, il me remplira de joie devant sa face. Tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens qui se sont donnés entièrement à Dieu, c'étaient des hommes pleinement heureux, satisfaits, et qui ne cherchaient pas dans le monde un plaisir quelconque pour aller compenser je ne sais quoi. Mes amis, Jésus suffit pleinement.
Amen.
Amen. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Alléluia.
Amen.
Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ.
Amen.
Nous avons tout pleinement en lui.
Amen.
Tout. Absolument tout. N'allons pas boire aux citernes crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Les citernes crevassées. Jésus peut te satisfaire pleinement à condition que tu passes par une authentique conversion. Là, tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit d'autre. il te suffira pleinement. Alléluia. Pleinement, pleinement. Tout autre plaisir s'estompe, pâlisse devant la beauté, la grandeur, la majesté de notre Seigneur. Amen.
Amen.
Alléluia. Mais tu passes par une conversion radicale. Radicale. C'est ce que Dieu veut. Pas des conversions à moitié. Un jour, vous êtes chrétien, le lendemain, vous ne l'êtes plus. Un jour, on agit comme un chrétien, le lendemain, plus rien. On se demande où... Non, ce n'est pas cela. C'est pour cela que notre témoignage ne porte pas. Les autres ont besoin de voir une vie transformée. Amen. Quand votre vie est transformée, les plus petites paroles que vous direz porteront du fruit. Mais si votre vie n'est pas transformée, vous pouvez faire les plus beaux discours. Il n'y a rien qui portera. Rien.
C'est vrai.
Mais quand vous dites, viens, mon sauveur est merveilleux. Un jour, j'avais lu le témoignage d'une vieille maman. Elle était dans une église, et dans cette église, il y avait un certain professeur qui était difficile à convertir. Il était un peu trop rationnel, enfin, il était très difficile à convertir. Alors le pasteur, il essaie toujours d'apporter des bons messages intellectuels pour toucher ce professeur. Et un jour, il apprend que le professeur s'est converti. Il était tout surpris. Alors, il était curieux, il voulait savoir pourquoi. Et ben, qui est... Ah, il s'est tout de suite demandé, ah, c'est parce que... Ouh, la semaine dernière, j'ai fait un message extraordinaire. Je pense qu'il doit penser à ce message-là. C'est à ce sermon, il doit penser à ça, sûrement. Alors, il allait le voir un peu, en étant un peu fier de lui, vous voyez, en pensant que l'autre allait lui taper sur l'épaule, comme ça. Et comme pour dire, monsieur le professeur... Je vois que vous êtes converti maintenant. Et qu'est-ce qui vous a touché? Alors il s'attendait à ce que l'autre lui tape un peu sur l'épaule. Ton sermon, bien sûr! Rien du tout. Monsieur, ce n'est pas votre sermon. Déjà un coup de soin, un coup de massue sur la tête. Alors là, il s'est calmé un petit peu. Ce n'est pas votre sermon. Ah bon? Il a dit, c'est une vieille maman ici, qui est dans votre église. Et quand je suis sorti, elle était aussi à la porte. Elle m'a tendu la main. Elle m'a dit, est-ce que vous connaissez mon Seigneur Jésus? Avec une telle affection, un tel amour pour son Sauveur, cet homme a été brisé. De voir que cette vieille dame avait un tel amour pour Jésus, son Sauveur. Regardez-moi ça. Vous dites, c'est pas grand-chose. Eh bien, ce sont avec des comportements pareils que vous pouvez faire des miracles autour de vous.
Amen.
Que Dieu peut vous utiliser. Nous pensons bien souvent que c'est ailleurs. Non, c'est d'abord dans une vie transformée. Est-ce que vous aimez mon Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que votre Jésus est précieux pour vous à un tel point? Est-ce que vous montrez un tel amour? Une telle confiance en lui? Une telle obéissance? Qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte pour vous? Alors que certains, même chrétiens, oh, je ne sais pas s'il m'aime Jésus. J'ai prié, il ne m'a pas répondu. Je prie beaucoup et il n'a pas l'air de m'entendre. Vous croyez qu'avec un tel témoignage, les autres vont se convertir? Ah, moi, Jésus, il m'a abandonné, moi. Ah bon? Et puis tu vas à l'église, il t'abandonne. Ah bon, il t'a abandonné? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Ah bon, moi, je crois que non, il ne m'aime plus. Comment il ne t'aime plus? Comment il ne t'aime plus? Est-ce que c'est ton sauveur? Oui, c'est mon sauveur. Et il ne t'aime plus? Ah, il m'a abandonné, il ne répond plus à mes prières. Regardez la contradiction. Et après, on est étonné de ce que nos paroles ne portent pas. On est étonné que Dieu ne mette pas le sceau sur nos paroles. On est étonné. Mais pourquoi, Seigneur ? Tu en utilises les uns et tu ne m'utilises pas moi-même. Pourquoi, Seigneur ? Est-ce que vous aimez mon Seigneur Jésus ? Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia! Voilà ce qui transpirait du témoignage de Paul, son amour extraordinaire pour son Sauveur, parce qu'il a réalisé combien il l'avait aimé jusqu'à mourir pour lui, combien il avait souffert. Tu me persécutes, Paul. Et combien il a compris toutes les souffrances de Jésus à cause de son péché, de sa rébellion, de son entêtement, de son orgueil. Tout cela l'a brisé au pied de la croix et a fait de lui le plus grand prédicateur de l'Église chrétienne, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'un jour, il a compris qui il était. Un jour, il a pu dire, Jésus est mon Sauveur, avec une telle intensité que désormais, plus rien ne pouvait l'arrêter. Plus rien. Quel amour il avait pour son Sauveur, n'est-ce pas vrai? Pour Jésus, son Maître. Avons-nous cet amour-là qui se manifeste par une obéissance sans condition? Mes amis, écoutez-moi bien, alors votre témoignage portera. Les uns peut-être se moqueront de vous, mais d'autres seront étonnés, comme on lit dans les Actes. Ils étaient stupéfaits, étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Il était la veille ou un jour avant, il respirait la menace et le meurtre, et maintenant il est transformé. Imaginez la scène quand Barnabas amène Paul à Jérusalem et il ne croit pas en lui. Paul devait avoir la tête basse. Il s'est approché derrière Barnabas et Barnabas l'a aidé en disant « Calmez-vous un peu, taisez-vous là. Cet homme n'est plus le même. Cet homme n'est plus le même. Et dans peu de temps, vous allez voir qu'il n'est plus le même. C'est lui que Dieu va utiliser pour prêcher devant les nations, devant les rois. Et le Seigneur a dit à Ananias, et tu lui diras aussi combien il devra souffrir à cause de mon nom. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à souffrir pour lui, n'est-ce pas vrai? On est prêt à être rejeté à cause de lui. On est prêt à être calomnié à cause de lui, quand on aime vraiment. Aujourd'hui, on prêche un évangile sans la croix. Ah, on veut bien être béni, mais être rejeté, ça c'est une autre histoire. Ah bon, pourquoi tu as peur d'être rejeté? Si Jésus t'a accepté dans sa famille, si Jésus est pour toi ton Sauveur, personne ne pourra te séparer de lui. Amen. Si tous te rejettent, cela n'a aucune importance. Amen. Pourquoi crains-tu le rejet des autres? C'est parce que tu ne réalises pas assez ta communion, ton unité avec Jésus, que tu es aimé de lui et que toi, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Et s'il y a cette parfaite confiance à l'égard de ton maître, que lorsqu'on te rejette, tu peux venir à ses pieds et dire, Seigneur, même si tout le monde me rejette, je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, en toi, Seigneur. Alléluia! Rien, absolument rien. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de tels chrétiens aujourd'hui? Voilà les chrétiens dont on a besoin. Des vies transformées. puisse dire, mais c'est lui, plus le même, plus la même. Est-ce qu'on peut dire cela de vous, que vous n'êtes plus le même, plus la même? Est-ce qu'on peut le dire? Pas seulement vous qui devez le dire, vous savez, je suis transformé. Hein. Ah oui, mais c'est devant les autres. Mais par derrière, c'est autre chose. Certains disent qu'aux autres, de ne pas fumer, mais par derrière. Ah, Jésus libère! Extraordinaire, Jésus libère! Même de la cigarette! Et lui, il fume encore, en cachette. N'est-ce pas une tragédie, ça? Dites-moi un petit peu, de qui on se moque? Et quand vous rendez témoignage, l'autre sent, là, c'est votre sang, l'odeur de votre cigarette. Et il doit se dire, toi, t'es un beau parleur. Va d'abord abandonner ta cigarette. Je veux d'abord sentir l'odeur de Christ et non pas l'odeur de cette cigarette qui m'empêche d'abord.
Amen.
Qui m'empeste. Et qui me sépare de ton sauveur. Mes amis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, le témoin, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pensais encore vous dire autre chose, mais je crois que c'est le point important. Ça commence par là. Parce qu'une fois qu'on a expérimenté une vraie conversion, mes amis, beaucoup de choses changent merveilleusement. Et le monde a besoin de voir des chrétiens, des vrais chrétiens, transformés. Transformés complètement. Autrefois, j'étais ceci, maintenant, je suis cela. Autrefois, je mentais, et maintenant, je ne mens plus. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui mentent? Et il y a même des prédicateurs qui mentent. J'en ai été témoin. Devant vous. Est-ce que c'est possible, ça? C'est possible! On peut même prêcher aux autres et mentir. Mes amis, les choses de Dieu sont sérieuses. Paul était sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'était pas sérieux, on n'aurait pas l'évangile qu'il nous a apporté.
C'est vrai.
Ils ont été jusqu'au martyr, ces chrétiens. Et Paul a été jusqu'au martyr pour son sauveur. N'aie pas honte de l'évangile, Paul disait à Timothée. N'aie pas honte de moi. Si je suis prisonnier, je suis le prisonnier du Seigneur. N'aie pas honte de mes chaînes. Être chrétien, c'est être rejeté aussi. Et aujourd'hui, être chrétien, c'est vouloir être accepté par tout le monde. Ça, c'est un autre évangile.
Oui.
Vous entendez bien?
C'est ça.
Celui qui cherche à être accepté par tout le monde, c'est un autre évangile.
C'est vrai.
Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vous
rejetteront
aussi. Le disciple n'est pas plus que son
maître.
Et aujourd'hui, certains sont plus que leur maître. Plus que leur maître. Et je ne voudrais pas être à leur place le jour du jugement. Moi, je n'ai qu'à mettre Jésus et sa parole. Et vous? Est-ce à lui seul que vous appartenez? Mes amis, c'est dans cette mesure-là qu'il y a une vie de plénitude, de joie. C'est quand on se donne entièrement qu'on est le plus heureux. Amen. Sinon, tu seras toujours malheureux. Toujours où tu chercheras dans le monde tes plaisirs, tes satisfactions. Si Jésus n'est pas pleinement ta satisfaction, tu iras tôt ou tard dans le monde rechercher cela. Et beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde, n'est-ce pas vrai? Beaucoup de Démas, beaucoup de chrétiens qui ont fait marche arrière. La cause... Pas d'authentique conversion, avec une authentique repentance, pas de témoignage, de changement de vie. On est là, toujours pareil, très peu de choses qui changent. Le langage est toujours le même, les passions sont toujours les mêmes. Rien qui change. On est comme le monde. Quelqu'un dit un jour, j'ai cherché le monde. Et je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et c'est le fameux prédicateur, je termine par cela maintenant, Campbell Morgan, le fameux prédicateur anglais, Campbell Morgan, qui disait il y a quelques dizaines d'années en arrière, l'Église a eu le témoignage le plus puissant dans le monde quand elle était séparée du monde. Quand elle n'était plus séparée du monde, elle n'avait plus de témoignage. La puissance de notre témoignage en tant que chrétien vient de la séparation.
D'avec le monde.
D'avec le monde. C'est-à-dire qu'on est entièrement au Seigneur. Et ensuite Dieu nous envoie transformés comme des lumières, comme du sel. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il veut faire pour vous. Quand vous savez d'où il vous a sorti, alors la compassion vous saisit et vous dites, mais le Seigneur veut faire la même chose. Mais vous devez venir au pied de la croix, vous repentir comme tout le monde. Ce n'est pas d'une thérapie dont vous avez besoin, c'est de repentance. Aujourd'hui, on prêche beaucoup de thérapie. Les chrétiens ont besoin de soi-disant thérapie maintenant. L'apôtre Paul ne parlait pas de thérapie, il parlait de repentance, ainsi que le Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Pourquoi ? Parce que la repentance va en profondeur, change les vies. Amen. Tandis que les autres, vous coupez l'herbe à la surface. 15 jours après, ça recommence. Il n'y a pas de changement. Et les thérapies qui durent des mois, des années. Et puis il y en a bien qui en profitent avec ça. L'argent, hein, c'est jamais gratuit en attendant des sourds. Hein, il faut les billets, il faut les donner. Et au bout d'un certain temps, vous êtes fauché complètement. Il n'y a pas de changement en plus. C'est la déception. Et on s'en va, déçu. Nous avons une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Un jour, nous aurons des comptes à rendre. Ne l'oubliez pas. Chacun d'entre nous. Chaque prédicateur aura des comptes à rendre. La volonté du peuple, de la foule, n'est pas toujours la volonté de Dieu.
C'est vrai.
Amen.
Amen.
Je termine par cette pensée. La volonté de la foule ou du peuple n'est pas toujours la volonté de Dieu.
Oui.
Suivons le Maître sur le chemin étroit. Dans l'Apocalypse, il est dit, il suivait l'agneau partout où il allait. J'ai décidé à le faire jusqu'au bout. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les contradictions, quelles que soient les persécutions, voilà le chemin des premiers chrétiens qui ont été jusqu'au martyr, mais qui sont couronnés là-haut. On se moque de ces gens-là aujourd'hui, mais là-haut ils seront couronnés. Celui qui voudra porter une couronne dans le ciel doit porter sa croix sur la terre.
Amen.
Et cette croix, c'est accepter d'être rejeté, et non pas vouloir être accepté par le monde. C'est un autre évangile. Le vrai évangile, c'est celui des apôtres. Puissions-nous rester fidèles. Amen.
Amen.
Puissiez-vous rester fidèles, mes amis.
Amen.
Que rien ne vous détourne
Amen.
Du chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Que votre cœur soit attaché au Seigneur, seul à sa parole. Si vous êtes sérieux avec lui, il sera sérieux avec vous. Il sera sérieux avec vous. Et vous raconterez ses merveilles, sa bonté, sa fidélité. Il n'a jamais déçu personne. Et lorsque les choses ne vont pas comme vous voulez, vous devez lui faire confiance. Vous devez dire, Seigneur, tu es le maître. Ce n'est pas moi qui commande, c'est toi. Je te fais confiance. Et avancez jusqu'au bout. Avancez en chantant. Ne perdez jamais votre chant de reconnaissance et de louange. Chantez, chantez sur le chemin, sur ce chemin étroit. Chantez le cantique de l'agneau. Chantez le cantique de reconnaissance. Chantez votre amour pour le Seigneur. Chantez. Chantez.
Amen.
Que vous resterez fidèle au Maître. Chantez.
Amen.
Et le Seigneur vous enverra des personnes. Quand il verra qu'il y a des vies transformées, vous verrez que le Seigneur en enverra. Parce que tant qu'il n'y a pas de vie transformée, pourquoi voulez-vous que les gens viennent ? Pour voir quoi ? Des gens qui ne sont pas transformés ? Avec des problèmes ? En rentrant ici, ils vont dire, oh, moi, j'ai assez de problèmes, je ne sais pas ici que je vais venir. Mais si vous avez appris à régler vos problèmes, le Seigneur commencera à en envoyer. ou vous à les contacter. C'est, le Seigneur a mille une façon, n'est-ce pas, pour le témoignage. Soit il les envoie, soit vous allez et tout. Mais quand votre vie est transformée, le Seigneur dit, maintenant tu es prêt, je vais t'envoyer du monde. Parce que tu pourras aider cette personne. Ta vie est transformée. Tu as eu le même problème que lui. Eh bien, je vais t'envoyer quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi, que tu avais, qui a les mêmes problèmes que tu avais. Puisque toi, tu as vaincu, tu vas l'aider. Mm-hmm. Et tu le rendras vainqueur, mm-hmm, s'il veut croire, amen, à la parole du Seigneur. Amen. Et ta joie sera grande. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous.
Amen.
Une conversion radicale.
Amen.
Laissez-moi vous dire, ça, c'est un témoignage puissant. C'est ce que le monde attend aujourd'hui. Mm-hmm. Dans l'église ou en dehors de l'église. C'est ça qu'il attend de nous. Et vous verrez le Seigneur bénir votre vie. Et vous rendre en bénédiction.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Nous vous aimons tous au nom du Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Je propose que nous nous levions.
Alléluia.
Dans la sainte présence de Dieu.
Je crois que le Seigneur a parlé
sévèrement, il est vrai. Mais quand il nous parle sévèrement, c'est toujours encore par amour, parce qu'il nous aime. Et ce soir, il nous invite chacun d'entre nous à examiner notre robe. Par le message, il y a des taches qui ont été révélées. Le Seigneur a parlé à certains d'entre nous de certaines tâches qui se trouvent sur sa robe. Et il voudrait maintenant que nous le laissions sonder notre cœur pour savoir quelle tâche se trouve sur notre robe. Quelle est la tâche, Seigneur, qui assaille ma robe? Où est-ce que j'ai quelque chose à rectifier? Laissons le Seigneur, par son esprit, sonder chacune de nos vies. Il peut faire passer devant tes yeux tout le film de ta vie. Et d'un seul coup, tu te rendras compte des choses qui ne vont pas. Laisse le Seigneur éclairer de son projecteur divin ta conscience, ton cœur, ton âme, ton esprit, afin qu'il puisse vraiment te parler personnellement maintenant. Il y a une chose qui t'a touché plus qu'une autre dans le message. Réalise que dans ce domaine-là, tu as besoin de changer. Peut-être est-ce tout simplement un manque d'amour pour le Seigneur. Peut-être est-ce tout simplement un manque de consécration, un manque de zèle, un manque de fidélité, de la négligence. Je ne sais. Le Seigneur le sait et il te parle. Maintenant, dis oui, Seigneur. Je veux changer. Je veux changer, Seigneur. Je ne veux pas aller à ta rencontre avec une robe sale.
Alléluia.
Avec des taches. Non, Seigneur, purifie-moi.
Amen.
Fais couler ton sang précieux sur cette tache. Et je veux désormais marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Purifie ton peuple, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur.
Amen.
Qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'être purifié? Nous avons tous besoin d'être purifiés. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie.
Je veux te ressembler.
Je veux te ressembler, oui.
Je veux te glorifier.
Alléluia.
Alléluia.
Et le Seigneur, parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut confirmer sa parole, la parole qui vient d'être prêchée ce soir, va guérir certains malades au milieu de nous. Mais j'ajouterai ceci de sa part. Si le Seigneur te guérit, que vas-tu faire de cette guérison qu'il va t'accorder? Vas-tu aller continuer de faire ta propre volonté? Peut-être servir le diable aussi? Avec la guérison que le Seigneur te donne? Veux-tu continuer ta vie comme auparavant? S'il te guérit, le Seigneur accorde ses guérisons par grâce, mais ce n'est jamais pour ensuite faire notre propre volonté. Jamais. Jamais. Alors le Seigneur va confirmer sa parole et il m'a donné des paroles de connaissance. Il va toucher plusieurs personnes au milieu de nous. Il y a une personne qui a des douleurs dans le ventre dues à des problèmes de colonne vertébrale et ça crée un rayonnement jusque dans le ventre de douleur. Alors le Seigneur maintenant pose sa main sur cette personne qui a ce problème-là.
Alléluia.
Il pose sa main sur toi.
Amen.
Et t'envoie sa guérison.
Amen.
Maintenant. Reçois la guérison de la part de Jésus.
Merci,
ce qui
Seigneur.
Te donnait dit merci Seigneur.
Simplement merci.
Que ces douleurs dans ta colonne disparaissent.
Remercie le Seigneur.
Et dans le ventre du même coup
pour
aussi.
Le don qu'il t'accorde.
Merci Seigneur.
C'est un don,
gloire, gloire à toi. Alléluia,
merci.
Seigneur. Tu es un Dieu bon, miséricordieux. Et tu ne nous rends pas selon nos infidélités. Toi, tu es le fidèle. Quelqu'un qui souffre de sinusite, ses sinus se débloquent aussi. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'autre jour, hier, il y a un jeune homme qui souffrait de sinusite. Et il a senti de ses sinus se débloquer. Et à une autre occasion, c'était à Valence, au mois de mai, en France. Le jeune homme qui était atteint de sinusite a même entendu un petit craquement dans son nez. Alléluia.
Amen.
C'est juste parce que le Seigneur voulait lui faire ressentir son attouchement.
Amen.
Et le Seigneur te touche maintenant, toi qui
as
ce problème. Reçois la guérison de Jésus aussi.
Amen.
Alléluia. Sois guéri, reçois cette guérison.
Alléluia.
Et dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Merveilleux sauveur.
Il y a quelqu'un qui souffre de terribles douleurs dans la nuque.
Merci, Seigneur.
Et qui s'en vont jusque dans les épaules.
Ta compassion.
Merci pour cette nuque.
Non,
merci
mais...
pour ce problème dans la nuque. Sois guéri. Reçois la guérison de Jésus.
Remercie.
La puissance de Jésus est sur toi. Et cette douleur insupportable s'en
merci,
va
Seigneur.
Au nom de Jésus.
Remercie
ton Seigneur et dis merci. Il m'a touché. Jésus m'a touché.
Amen.
Seigneur me montre qu'il y a aussi quelqu'un qui a une tache au poumon parce que tu as fumé. Maintenant tu as abandonné la cigarette, mais tu as une tache au poumon. Eh bien, cette tâche, elle disparaît par la puissance du nom
Alléluia.
De Jésus. Gloire au Seigneur.
Merci.
Parce que tôt ou tard, elle t'aurait créé des problèmes.
Merci.
Mais maintenant, le Seigneur est venu te libérer. Alléluia. Parce qu'il est le grand libérateur.
Crois-le de tout.
Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est asthmatique aussi.
Merci,
merci Seigneur. De ce que tu délivres de l'asthme aussi.
Amen.
Même s'il dure depuis des années.
Oh oui.
Aucun problème pour toi, Seigneur.
Amen.
Merci, Seigneur. Sois libéré de ton asthme. Au nom et par la puissance de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur.
Et
alléluia, Jésus. Il y a quelqu'un qui a le sang trop épais. Et tu risques de faire des embolies. Oh, merci Seigneur, tu sais aussi liquéfier le sang.
Amen.
Là où il faut. Merci Seigneur. Gloire à Jésus,
merci.
Le Tout-Puissant. Créateur de l'univers, créateur de mon corps, créateur de ton sang.
Amen.
Alléluia. Une douleur articulaire disparaît aussi dans une articulation. Toi qui te sens touché par le Seigneur, dis simplement merci Jésus. Tu m'as enlevé cette douleur. Merci. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as eu compassion de moi.
Oui, merci.
De ce que tu m'aimes d'un si grand amour.
Alléluia.
Alléluia.
Merveilleux.
Encore une dernière, un dernier attouchement. Quelqu'un qui souffre de bronchite comme chronique. Encore les poumons.
Alléluia.
Seigneur, merci de libérer cette personne de cette infirmité des bronches.
Amen.
De ces bronchites chroniques.
Alléluia.
Désormais, tu t'apercevras que tu n'en auras plus. Parce que le Seigneur Jésus s'est abaissé jusqu'à toi pour venir te toucher ce soir. Il t'a donné rendez-vous ici, justement, précisément, pour venir te toucher. Ô Seigneur, nous te louons. Tu es notre bon berger. Et tu ne nous rends pas selon nos infidélités. Toi, tu es le fidèle. Mais puissions-nous garder précieusement tout ce que le Seigneur a donné ce soir et toutes ces paroles qui ont été données.
Amen.
Puissions-nous serrer ces paroles sur notre cœur et dire, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi par négligence. Retourner dans mon ancienne vie. Non, Seigneur, tu m'as trop aimé. Ton amour est trop grand.
Amen.
Je ne veux plus pécher contre toi.
Amen.
Puissions-nous réaliser que tu es le Dieu saint, le Dieu de justice. Une ou deux paroles de consolation. Consolation de l'âme. Paroles de consolation pour quelqu'un qui est dans la souffrance, la peine. Et le Seigneur te dit dans sa grande compassion, je suis ton compagnon le plus proche et le plus fidèle. Chaque jour, je chemine avec toi. Dans tes moments de déception les plus profonds, je demeure pour toi cette étoile qui vient éclairer ta nuit. Je suis aussi pour toi ce cœur compatissant qui toujours te pardonne et t'aime. Mon oreille est constamment à l'écoute de chacune de tes prières, même silencieuse. Tu peux continuellement venir déposer tous tes fardeaux, car pour moi, aucun fardeau n'est trop lourd ou trop pesant. Je serai avec toi jusqu'au bout de ton pèlerinage sur cette terre, te dit le Seigneur. Reçois cette parole de consolation.